les quatre évangiles en un seul du chanoine Weber dans le cadre d'un catéchisme qui fonde la doctrine et la morale sur une lecture continue des quatre évangiles unis dans leur historique par le chanoine Weber. Page 80 de la réédition aux éditions Tradition Monastique 2015 de Flavigny-sur-Oserin. Page 80, baptême de Jésus. Ici, nous avons la généalogie d'après saint Luc, et l'on voit que le chanoine Weber précise que dans saint Matthieu, c'est chapitre 3, chez saint Marc, c'est chapitre 1, et donc chez saint Luc, c'est chapitre 3, versets 21 à 28. Je ne développe pas, nous en avions déjà un peu parlé la dernière fois, c'est la querelle de savoir si, avec la Vierge Marie, Jésus a une descendance davidique par le sang et pas seulement par l'adoption par saint Joseph. Joseph est de la famille de David, mais si Jésus était de la famille de David seulement par son père adoptif, il ne serait pas véritablement le descendant de David. Et donc, c'est par sa mère qui... je l'ai lu la dernière fois et ça m'échappe. Donc, Élisabeth est... Anne est de la tribu de Lévi, non, de la tribu de Juda, et c'est Joachim qui est la tribu de Lévi. Ce qui fait que, sauf erreur de ma part, ce qui fait que le Christ descend par, à la page 45, l'écrivain sacré fait cette remarque, note C de la page 45, parce que, contrairement à la loi qui régissait les autres tribus, les Lévites avaient le privilège de contracter des alliances dans toutes les tribus d'Israël, de même que tous les Israélites pouvaient épouser des filles de la tribu de Lévi. On croit que Sainte Anne, de la descendance de Lévi, non, c'est Sainte Anne qui est de la tribu de Lévi, fut demandé en mariage par Joachim, qui était lui de la tribu de Juda. Voilà. Nous voyons par là que notre Seigneur était tout à la fois de la race sacerdotale d'Aaron et de la race royale de David. Alors, comme c'est la tradition orale, les disputes et les querelles sont interminables. Mais voyez-vous, contre ces disputes d'exégètes, il faut avoir la précision, si vous voulez, de la cohérence de la Sainte Écriture. On ne cesse de dire qu'il sera descendant de David, donc il est plus que probable que ce soit plus que par l'adoption, voyez, Joseph étant le père adoptif, mais par le sang. Et justement, il y en a qui disent, bon, ce n'est pas le Messie parce qu'il n'est pas Messie par le sang, puisqu'il est la Vierge Marie est d'une, d'une tribu sacerdotale de Lévi, et pas de la tribu de Juda, mais si, par Joachim, et non pas par Anne, sa mère. Enfin, tout cela, ce sont des discussions oiseuses qui troublent les fidèles pour troubler les fidèles. Vous voyez ? C'est comme, je vous l'ai déjà dit, ceux qui disent « Saint Jean, l'évangéliste, n'est pas Saint Jean, l'apôtre. » Vous voyez ? Ça, c'est pour vous troubler. Pourquoi c'est troublant ? Ben parce que pendant des siècles, on a cru que c'était le même, parce que ceux qui l'ont dit l'ont vu, l'ont bien constaté, ils étaient des témoins oculaires, et que la question ne s'est jamais posée, et qu'il faut attendre plusieurs siècles après pour que certains disent « Ah mais c'était l'apôtre n'était pas l'évangéliste. » Mais si on avait dit ça au premier siècle, tout le monde aurait ri, vous voyez ? Donc, bien sûr, il n'y a aucune trace au 1er, 2e, 3e, 4e siècle. Ensuite, on va chercher, chez saint Jérôme, un mot où il dit le presbytre Jean, qui est l'évangéliste. Il dit, ah oui, mais il n'était pas presbytre, il était apôtre. Oui, mais c'est une formule. C'était peut-être même le surnom de saint Jean, puisqu'il est, il a vécu jusqu'à plus de 90 ans. Vous voyez, ce sont des arguties et des choses qui ne sont là que pour vous troubler. De la même façon que l'on a mis en cause les miracles pendant tout le, comment dire, le 19e siècle et au 20e siècle, jusque dans les séminaires, vous voyez. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aime à lire l'Évangile et à l'interpréter, à le lire tel qu'il est écrit. Pourquoi ? Eh bien, parce que justement, à la page 82, nous avons le jeûne et la tentation de Jésus. Jésus, plein de l'Esprit de Dieu, quitta le Jourdain après avoir été baptisé par Jean et fut conduit par l'impulsion du même Esprit dans un désert. On en avait déjà un peu parlé. Pour y être tenté par Satan. Durant 40 jours et 40 nuits, il s'abstint de toute nourriture et demeura parmi les animaux du désert. Donc je vous avais lu la note de la page 83, petit a. Ce désert était sans doute l'affreuse solitude qui se trouve non loin de Jéricho, au nord du désert de Judée. On l'appelle encore aujourd'hui le désert de la quarantaine. Donc le Moïse restera au mont Sinaï sans boire ni manger. Il est bien évident que le Christ subit un jeûne en partie miraculeux puisqu'il ne boit pas non plus. Mais bien sûr, vous avez des exégèses qui vont vous dire qu'il avait une source à côté et qu'il buvait. Voilà. Après ce temps écoulé, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de se changer en pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon le transporta dans la cité sainte de Jérusalem et le plaça au sommet sur le faîte du temple. Donc il faut bien vous imaginer quelque chose de réel, hein. C'est-à-dire que le démon a pouvoir sur le corps du Christ et le déplace. Bon, le Christ peut se déplacer de lui-même miraculeusement. Mais il y a une véritable action du démon sur la nature humaine du Christ qui se laisse faire. Et ici, il est sur le haut du temple et s'il tombe d'environ 15 mètres, eh bien il se tue. « Si tu es le Fils de Dieu, reprit-il, jette-toi en bas, car il est écrit, Dieu a ordonné à ses anges de te prendre en leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas contre la pierre. » Il est écrit également, dit Jésus, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ne pas vivre que de pain, ça c'est pour nous dire que nous avons, notre nature est d'abord spirituelle plus que corporelle. Le jeûne de 40 jours est là pour nous inviter à insister justement sur notre nature spirituelle, même si nous ne sommes pas des anges, et du fait même du péché originel que nous avons déjà vu, il faut que la perte du don d'intégrité qui faisait que notre intelligence dominait la volonté et la volonté dominait le corps. Là, tout est brouillé, n'est-ce pas ? Et donc, le jeûne est une des manières de maîtriser notre sensualité. Et comme le dit le Christ à un autre moment, les païens, eux, demandent la nourriture et la prospérité. Eh bien, vous, chrétiens, vous devrez dépasser cette inquiétude païenne. Ici, la tentation de Dieu, c'est de prendre un risque dans nos vies. C'est ce qu'on appelle la présomption. Et penser que Dieu va nous donner sa grâce ou va nous aider alors que nous ne prenons pas les moyens pour atteindre le bien, un bon but, une bonne fin. La présomption peut être aussi dans le mal. C'est-à-dire que je pêche et que je pense que Dieu, de toute façon, me pardonnera plus tard, après. Tenter Dieu, ce n'est pas seulement faire quelque chose d'audacieux, qui, par exemple, travailler au-dessus de ses forces, s'occuper d'un époux ou d'une épouse qui a Alzheimer sans vouloir prendre ni d'infirmière, ni d'auxiliaire de vie. Et vous avez les enfants, les petits-enfants qui essayent de dire à la grand-mère de 78 ans, il faut peut-être être raisonnable. Et puis elle se casse le col du fémur, elle est à l'hôpital et son mari, avec son Alzheimer, il est à la maison. Et on doit faire en catastrophe de s'occuper de lui, voyez. Donc il y a aussi une présomption toute simple, hein, le péché de présomption. Bon, c'est pas un péché de malice, mais voyez-vous, on demande à Dieu plus que la vraie vie. Hein, on réclame de Dieu un miracle pour continuer. Dieu a ordonné à ses anges de te prendre en leurs mains afin que ton pied ne heurte pas contre la pierre. Il est écrit également, dit Jésus, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. De nouveau, le démon l'enleva et le transporta sur une très haute montagne. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que là, on a l'origine même de la compréhension de qui est Lucifer. C'est très important. De là, il lui fit envisager en un instant tous les royaumes du monde avec leur splendeur. Le gouvernement mondial, vous voyez, c'est particulièrement d'actualité, c'est Saint-Luc, ici, non, ici. Parce que voyez-vous, ce sont des passages parallèles, Saint-Matthieu, Saint-Marc et Saint-Luc prennent cette description. Ce n'est pas dans Saint-Jean. Alors, le démon a effectivement le pouvoir sur les armées du monde et sur les empires du monde. Il peut faire gagner un dictateur. Il aurait pu faire gagner Hitler. Il aurait pu faire gagner Staline. Il aurait pu faire gagner Mao. Mais les trois sont morts. Mais un jour, Dieu permettra à celui dont on aura le nom plus tard, et dont le nom est, le chiffre est 666, un nombre d'hommes, il gouvernera toute la terre au nom de l'amour, des droits de l'homme et d'une religion syncrétique à laquelle vous devrez obéir, sinon vous serez considérés comme des ennemis de l'amour. Oui. Mais il y en a qui sont pleins d'écoute et d'accueil et qui déjà sont dans la religion de l'amour. Ceux qui, par amour, vous voyez, permettent à une femme d'avorter, par amour, permettent à deux femmes de se marier et d'acheter un enfant, vous voyez, et de se procurer un enfant, ou alors la gestation pour autrui, par amour, n'est-ce pas? Aussi, l'euthanasie, par amour. C'est cette vieille dame de 92 ans que j'ai assistée. Et l'euthanasie est actuellement fait en France. C'était déjà avant la loi, mais la loi permet de manière très ambiguë un traitement de confort, comme on dit, mais ne précise pas que le fait de nourrir quelqu'un n'est pas un soin. Vous voyez, Vincent Lambert, on ne le soigne pas et il vit. Bon, c'est très embêtant, c'est vrai, il est tétraplégique, on devrait le tuer, mais il résiste, c'est très très embêtant. Et, parce qu'on ne fait que le nourrir. Est-ce que la nourriture est un soin? Eh bien, au nom du droit naturel, la Sainte Église de Dieu a tranché, et c'est une matière de mœurs, de morale. La nourriture n'est pas un soin. Et d'ailleurs, quand les gens sont malades, très très malades, je vais vous révéler quelque chose qui va vous choquer, ils meurent. Et donc, si vous ne faites que les hydrater ou les nourrir, ça sert à rien. L'infection va les tuer. Si vous ne donnez plus d'antibiotiques, si vous ne donnez plus de soins, ils meurent. Donc là, cette dame, elle ne se nourrissait plus, elle était très faible, elle n'en pouvait plus. Elle allait mourir, elle était extrêmement faible. Donc là, ils ont décidé de la mettre sous morphine. Certes, mais ils auraient pu quand même l'hydrater. Elle est morte de soif. Parce que dans sa chambre, elle était là avec deux seringues électriques de morphine et c'est tout. Aucune, comment dire, transfusion, de, enfin, aucun, ni glucose, ni eau. Rien, absolument rien. Alors on va m'expliquer que parfois les reins sont bloqués et que c'est pire encore. Bon, chiche. Mais une autre personne me dit, c'est rare que les reins soient bloqués. Et ils sont d'ailleurs souvent bloqués parce qu'on ne leur donne plus d'eau par intraveineuse. Mais est-ce un soin de donner de l'eau, même par intraveineuse? Est-ce un soin de donner de la un liquide enrichi en protéines par sonde? Non. Parce que si vous voulez, quand on est vraiment malade, encore une fois, je vous découvre quelque chose de très caché, n'est-ce pas? On meurt. Quand vous avez une infection, une nosocomiale, une bactérie, les poumons, vous mourrez. Ça, vous pouvez plus respirer, tout s'infecte dans votre corps, vous arrivez à 40 degrés, vous mourrez. Et donc ce n'est pas en donnant de la nourriture et de l'eau que vous empêchez la mort. Par contre, c'est 2-3 jours en plus, c'est vrai. Ça coûte cher, hein. Mais ça coûte, c'est assez redoutable. Mais voyez-vous, cette euthanasie limite, on va la voir en dessous, jusqu'au moment où la personne dépressive pourra être tuée, comme en Belgique, où une jeune fille de 24-26 ans, dépressive depuis l'âge de 16 ans, a pu prouver à deux docteurs, je crois, deux, trois peut-être, ils sont vraiment très 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 sérieux, que sa vie était intolérable, une souffrance psychologique intolérable. Donc elle a fait une petite fête, comme un anniversaire, pour fêter sa piqûre prochaine, et son absorption de poison prochaine, le lendemain ou le soir même. On a fait une petite fête d'adieu, hein, c'est sûr, puisqu'elle allait supprimer quelques temps plus tard. Vous voyez, et bien, dans la religion mondiale, et le Parlement des religions, ça sera voté à la majorité, peut-être, plus une. Mais ça sera le... Quand les religions siégeront dans un Parlement et que vous aurez le chef du gouvernement mondial qui aura son siège, sachez qu'il sera l'Antéchrist. Alors, vous allez me dire, mais c'est complètement délirant. Oui, ben c'est le livre de Monsieur Benson, le maître du monde, hein, le maître de la Terre. Mais nous verrons bien. En tout cas, si vous voulez, voilà ce que dit Lucifer. Il l'a vraiment dit. Les tentations du désert ne sont pas une idée. Soyez bien certains que la Sainte Église catholique vous dit que Lucifer a vraiment prononcé ces paroles devant le Christ. Même si vous avez 40 prêtres, 70 évêques qui vous disent le contraire, vous n'en tenez pas compte. De nouveau, le démon l'enleva et le transporta sur une très haute montagne. De là, il lui fit envisager en un instant tous les royaumes du monde avec leur splendeur. Cette gloire, cette puissance sont à moi. Et oh oui, mais Lucifer, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on est bien sûr? Eh bien, voyez-vous, les évangélistes, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, vous disent que Lucifer a dit ça. Si vous voulez connaître Lucifer, écoutez-le. Quand quelqu'un parle, il se raconte lui-même. Cette gloire, cette puissance sont à moi, lui assura-t-il. Elles m'ont été livrées et je les donne à qui je veux. Vous voyez, on insiste beaucoup sur la parole de Lucifer. Dieu vous a dit que vous mourrez, vous ne mourrez pas. Il a peur que vous ouvriez les yeux et si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. C'est des paroles de Lucifer. Dieu nous promet que nous pouvons exister sans Dieu. Comme si quelqu'un vous disait à 8 ans ou à 15 ans, ou même à 25 ans, Mais à 8 ans, c'est plus... Non, l'exemple est plus intéressant, vous voyez. Un enfant de 8 ans, il y a un petit camarade qui lui dit, tu peux... En fait, tes parents ne sont pas à l'origine de ton être. Souhaite qu'ils n'aient jamais existé. Toi, tu peux exister sans tes parents. Souhaite leur disparition. Souhaite leur écartement. Souhaite qu'ils soient loin de toi. Ils ne sont pas ton père et ta mère. Ils ne t'ont pas donné la vie. Ce sont des étrangers, ce sont des dictateurs, ce sont des personnes qui te nuisent. Tu ne pourras pas être libre si tu considères que tu dois ton existence à leur existence. Voilà. C'est ça le message de Lucifer. Et il n'y en a pas d'autre. Et en fait, voyez-vous, fondamentalement, c'est ça le péché de Lucifer. C'est de dire, vous êtes tous des êtres autonomes et indépendants, comme moi. Ça, c'est le premier message, parce que c'est son premier péché. Il voudrait qu'on soit tous comme lui, considérant qu'on n'a pas de père, qu'on n'a pas de créateur. C'est ça, Lucifer. C'est une intelligence vertigineuse qui dans ce vertige d'orgueil, dit « j'existe sans Dieu ». C'est le fleuve qui dit « je n'ai pas de source ». Eh bien, voyez-vous, il y a un deuxième péché, c'est que Lucifer, qui ne veut pas de Dieu, voudrait être Dieu pour toutes les autres créatures. Il veut prendre la place de Dieu. Ça, c'est le deuxième péché, mais le premier, c'est le sien, et il veut nous le communiquer. Et c'est le péché originel. Vous avez, dans la synagogue, certains docteurs de la loi, des rabbins, vous avez certains même pères de l'Église qui ont pu penser que c'était un péché de sensualité. Et l'opinion commune dit non. Pourquoi ? D'abord parce que avant cette tentation, Ève comme Adam sont intègres. Et pour eux, leur nudité est tout à fait naturelle. Et leur sexualité est tout à fait naturelle. Ils n'ont aucun trouble de sexualité. Donc il n'y a pas de concupiscence particulière. C'est la tentation est une tentation de toute puissance et d'indépendance. C'est ça le péché originel. Et il nous transmet cette jalousie vis-à-vis de Dieu. C'est ça le péché originel. Ève tombe la première et Adam tombe en second, mais il tombe de la même manière. Et une des punitions d'Ève, c'est de se retrouver, sous l'autorité excessive de l'homme, comme conséquence du péché originel. Eh bien, donc un vrai couple, c'est, comme dit saint Paul, les femmes sont prévenues de ne pas, provoquer l'autorité excessive de l'homme pour qu'il n'y ait pas une guerre, une opposition délétère. Et le mari, pour compenser sa force et son autorité blessée par le péché originel, doit aimer sa femme jusqu'à la bravoure et le courage et mourir pour elle, comme le Christ est mort pour l'Église. Ouais. Les femmes et les enfants d'abord, et dans un bateau qui coule. Voilà. Là, ils rachètent toute leur colère et tournent leur... Eh bien, ici, le deuxième péché de Lucifer, et alors là, pour nous, c'est un peu plus difficile de vouloir être le maître du monde, c'est d'être adoré comme Dieu, à la place de Dieu. Je serai sur le trône du Très-Haut, dit Lucifer. Et je crois que c'est dans Jérémie. Et là, il n'y a pas la référence, c'est un peu dommage. je serai sur le trône du Très-Haut. Cette gloire, cette puissance sont à moi. Elles m'ont été livrées. » Donc il prétend que Dieu lui laisse le monde. Et en effet, le Christ dira le prince de ce monde. Mais ce n'est pas que Dieu ait fait exprès de lui livrer le monde et les royaumes et les armées. Mais c'est Satan qui les obtient par le péché de l'homme. Voyez. Et je les donne à qui je veux. Eh bien, tout cela, je te le donnerai, mais par délégation. Si, tombant à mes genoux, tu m'adores. Vous voyez, il voudrait en faire l'antéchrist. Et un jour, Lucifer va trouver un homme qui acceptera cette mission. Et cet homme sera un homme. Ce ne sera pas un empire, ou ce ne sera pas un collège, ce sera un homme. Pourquoi ? L'opinion commune dit que l'antéchrist sera un être humain, un homme. Parce que Satan est le singe de Dieu. Donc, Jésus était un seul homme, une seule personne. L'antéchrist sera un homme. Jésus était le Messie. L'antéchrist sera le Messie. Le faux Messie, mais sera le Messie. Et pour cela, on doit reconstruire le temple pour qu'il entre par la porte est et soit considéré comme le Messie. Donc, les lucifériens actuellement n'ont qu'une seule idée en tête, c'est reconstruire le temple.
Je savais pourquoi on les appelle le Messie alors.
Mais c'est un faux Messie. Le vrai Messie est déjà arrivé.
Oui. Pourquoi
les appeler Messie ? Parce que la religion juive est la vraie religion. Nous sommes juifs. Sauf que tous les juifs qui ont eu la mission, n'est-ce pas, enfin la grâce de reconnaître Jésus comme leur Messie ont été dilués dans tous les peuples. Et ceux qui ont été gardés pour la fin des temps et qu'on appelle de nos jours juifs seront là pour manifester pour contrer la fausse messianité de l'antéchrist quand il arrivera. Parce que tous les juifs pieux qui sont dans l'ignorance invincible, qui ont été dans leur tradition juive, petits, enfants, et qui ont, adoré le vrai Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ont difficilement accès à l'évangélisation, puisqu'on n'aura pas arrêté de leur dire dans leur enfance que Jésus était un imposteur, que l'Église catholique les a persécutés, que les chrétiens ont été très durs avec eux. Donc il y a des personnes sincères et pieuses qui ont du mal à demander le baptême, n'est-ce pas, au nom de Jésus, leur Messie. Mais seulement, ils ont un minimum, justement, ils ont la connaissance de la révélation mosaïque, qui était la révélation préparatrice à la venue de Jésus. Donc quand l'antéchrist va venir, et qui va prétendre être le Messie du peuple juif, eh bien, pourquoi Satan passe à nouveau par le peuple juif pour attaquer l'humanité ? Parce qu'il y a une légitimité historique profonde, religieuse dans le peuple juif, authentique. Dieu a fait garder la foi à ce peuple pendant des siècles. Donc ça va attirer et étonner tous les autres peuples. Cette légitimité, cette authenticité du Messie est très importante. Sauf que ça sera l'antéchrist. Alors les juifs qui veulent uniquement le pouvoir seront contents d'être le lieutenant de ce nouveau Messie et royauté temporelle, comme le Sanhédrin et les prêtres du temps du Christ l'ont rejeté pour les mêmes raisons, et les zélotes, parce que Jésus ne prenait pas le pouvoir. Donc pour eux, c'était impossible. Pourquoi ? Ils voulaient uniquement le pouvoir temporel, avec au moins de leur royaume. Mais d'avoir un messie spirituel, ils n'en avaient que faire. C'est pour ça que le Christ leur reproche, on dit, mais Mais la foi qui vous a été transmise, ce n'est pas une foi pour un nationalisme, c'est une foi pour votre sanctification et votre salut. Le publicain qui est collaborateur de l'occupant romain et qui pleure au fond de la synagogue en disant « je suis un pécheur » sort justifié. Le pharisien qui est devant et qui dit « oh, j'applique les 600 prescriptions pharisaïques, je suis un saint », il n'est pas justifié. La samaritaine qui dit à Jésus « en effet, j'ai pas de mari » est justifiée. Vous voyez, dans la querelle des divorcés remariés actuellement, ben Jésus, lui, ben il est pour la vérité. Il dit pas « oh, ben, tu as des circonstances atténuantes merveilleuses, et bien, oulaou, tu es en état de grâce. » Non. Il a dit « tu n'as pas de mari, et l'actuel n'est toujours pas ton mari. » Ah, c'est génial, c'est là, elle a... Là, elle dit, eh ben, ma situation matrimoniale est particulièrement claire. Merci Jésus, voilà. Merci le Messie. Au moins, on ne me ment pas. Et elle est vexée. Elle dit, oui, je suis excommuniée, je ne peux pas prendre la communion et tout ça. Non. Pourquoi? Parce que Jésus l'aime. Et l'appelle à être heureuse et à être vraie. Et elle repart à Samarie et elle dit, n'aurais-je pas trouvé le Messie? Il m'a tout dit sur moi. Il m'a même dit que j'étais adultère. Ouais.
Que j'avais
plusieurs
maris.
Voilà. Et elle a été vexée? Non. Pourquoi? Parce que Jésus lui a montré qu'il l'aimait et qu'il voulait son salut. Alors, voyez-vous, ne serait-ce... Alors, les Samaritains partent voir Jésus, lui posent plein de questions et Jésus leur répond avec cette hauteur extraordinaire en disant ce n'est plus au mont Garizim, ce n'est plus à Jérusalem que vous allez adorer Dieu. C'est en esprit et en vérité. Vous vous rendez compte? Il est en train de leur dire vous êtes jaloux des Juifs parce qu'ils ont la vraie foi. Nous adorons celui que nous connaissons. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas parce qu'ils ont une fausse religion. Mais que ceux qui sont justement droits, de bonne foi et en conscience, adorent. Et Jésus vient pour dissiper justement l'ignorance. Que les Samaritains adorent enfin Dieu directement, et non pas avec une fausse religion et des dangers. Et que les Juifs qui adorent le vrai Dieu en le connaissant, l'adorent encore plus fidèlement et de manière encore plus spirituelle. Il n'y aura plus ni juif, ni grec. Il n'y aura plus ni homme, ni femme. Il n'y aura plus ni homme libre, ni esclave. C'est-à-dire, saint Paul dit même, vous pouvez rester esclave. Il y avait un esclave qui s'était libéré et qui était allé aux côtés de saint Paul, enfin qui s'était enfui. Et saint Paul respecte l'esclavage comme un droit social rigoureux et sévère de possession de l'employeur jusqu'à votre corps. Il dit, c'est terrible, mais c'est le droit social de l'époque. C'est le code du travail de l'époque. Et quand il baptise Onésime et qu'il l'apaise, il dit, va voir ton maître. Appartient, ton travail et ton corps lui appartiennent jusqu'à ta mort. C'est ainsi. Et il lui donne une lettre. C'est la lettre à Philémon, qui était le propriétaire, l'employeur d'Onésime. Et il lui dit, je te rends ton esclave. Tu peux le garder comme esclave. Mais si tu veux me faire plaisir, mais je ne te l'ordonne pas. Pourtant, en tant qu'apôtre, je peux te l'ordonner. Ça me ferait plaisir que tu le libères, que tu casses ce contrat de travail léonin. Mais tu fais ce que tu veux. Bien sûr, Philémon va affranchir Onésime, qui deviendra évêque d'ailleurs. Mais voyez-vous, c'est comment dire, c'est cette liberté que le Christ apporte. Et ce qui fait que même lorsque vous êtes en prison, même lorsque vous êtes dans un goulag, même quand vous êtes dans un camp de concentration, même quand vous êtes un esclave dans un bateau qui part d'Afrique jusqu'aux États-Unis ou ailleurs, eh bien vous êtes libre parce que vous aimez Dieu et que vous avez le salut. Vous voyez, d'où lorsque les esclaves étaient évangélisés, baptisés en Amérique, les gospels. Voyez. Eux, ils savaient dire les psaumes parce que ils méditaient et contemplaient la liberté, la libération que signifiait le peuple juif qui sortait d'Égypte vers la Terre Sainte. Et dans leur âme, ils étaient libres, ils étaient libérés. Voyez. Enfin, c'est de nos jours, c'est trop spirituel, on ne peut pas le comprendre. Tout cela, je te le donnerai. Si tombant à mes genoux, tu m'adores. Vous croyez pas que ça va s'accomplir, ça? Je vous assure, ça va s'accomplir. Et là, Jésus, lui, par contre, il dit, arrière, Satan. Satan, c'est l'adversaire. Hein. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et là, Satan, il peut rien. C'est une créature qui veut être Dieu. C'est à la fin, ça, c'est. Alors, je sais qu'il faut pas rire de Satan.